Notre chroniqueuse politique, Jacinthe-Ève Harel, est avec nous en studio. Et là, Jacinthe-Ève. J'ai tellement besoin de ton expertise, de ton expérience, de tes connaissances. Moi, je suis comme un des mortels, OK? Oui, j'anime une émission, une émission du matin, puis oui, j'essaie de m'intéresser le plus possible au monde politique, que ce soit municipal, provincial, fédéral, international, peu importe. Mais je comprends pas. Moi, de ce que je lis, de ce que je vois, des sondages, des citoyens libéraux qui, à haut pourcentage, voudraient un départ de Justin Trudeau, je vois des gens qui quittent les libéraux fédérales, je vois une lettre de députés qui veulent le départ de Justin Trudeau. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle, 7h52, 24 octobre, Justin Trudeau est toujours là.
Ben oui.
T'es-tu surprise, toi, ou pas pantoute?
Ben, c'est vrai que c'est difficile à comprendre parce que si on se place dans ses chaussures, on se dit avoir autant de monde qui s'oppose à mon leadership, je me sentirais petit dans mes culottes puis j'aurais le goût de partir. C'est le premier réflexe qu'on a. Puis on se dit, comment ça qu'il part pas? Voyons donc, il voit bien que...
Pourquoi il s'accroche au pouvoir?
Il s'accroche au pouvoir, c'est certain. Mais en même temps, faut pas oublier que c'est un gars qui est parti... Il est devenu premier ministre dans un parti, Parti libéral du Canada, qui, à une époque, en 2015, où le parti n'était pas en bonne posture.
Il était troisième.
Il a redressé le parti, il l'a reconstruit à sa manière après de longues années au pouvoir du gouvernement conservateur, qui, lui aussi, s'essoufflait puis faisait face à l'usure du temps. Mais donc, les conditions étaient favorables pour reconstruire puis faire une nouvelle proposition au Canadien. Mais il reste que lui, a construit sa carrière politique dans cette reconstruction du Parti libéral puis le renouveau là, qu'il a incarné. Alors, cet élan-là, bien, lui, il l'a encore.
Oui, exactement.
Il l'a encore. C'est un battant. Il navigue bien dans la controverse. Il navigue bien avec un vent de face comme ça. Et il y a aussi d'autres enjeux. Tant que les gens qui se lèvent autour de lui, ce sont des députés, c'est pas des ministres qui ont la fameuse vingtaine, trentaine là, de députés qui s'opposent à son leadership, ça reste quand même pas des ministres clés dans son gouvernement, ce sont des députés. Et ils n'ont peut-être pas eu la bonne stratégie non plus pour le mettre dans le coin du mur, le pousser dans le coin du mur ou le pousser à la porte. La stratégie de faire une lettre comme ça était risquée parce qu'il y a probablement eu des fuites. La preuve, on a entendu parler avant que la lettre soit sortie. Donc, le coup d'éclat qui était en train de se préparer avec cette lettre-là, ben n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de coup d'éclat. C'est sorti avant. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Il y a toutes sortes de manières là, qu'on peut décortiquer cette stratégie-là des députés, mais elle n'a pas été efficace.
Jacinthe-Ève, est-ce qu'il est chanceux? Y es-tu chanceux dans le sens qu'il n'y a pas, puis corrige-moi si je me trompe, quelqu'un d'assez solide qu'il pousse en ce moment pour prendre sa place?
Il y a ça aussi, certainement. Okay. Certainement. On ne peut pas... Il n'y a pas une unanimité au Canada. Il n'y a pas un nom qui circule qu'on se dit « Voyons donc, c'est lui qu'on verrait ou c'est elle qu'on verrait. » Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que lui-même analyse ça puis il se dit « De toute façon, on n'a pas préparé ma succession. C'est pas clair. Il n'y a pas un nom qui fait l'unanimité qui circule. Ouais. Il y a des noms comme ça, mais même les noms qui circulent, les quelques noms qui pourraient circuler, là, on entend des fois, peut-être Chrystia Freeland, peut-être Mélanie Joly, mais même ces noms là qui circule, en plus de ne pas faire l'unanimité, il n'incarne pas nécessairement un changement par rapport à la gouverne du Parti libéral du Canada. Il n'incarne pas non plus nécessairement une nouvelle façon de redresser ce parti-là. Donc, ça aurait pris un sauveur, effectivement, et là, il n'y en a pas. Donc, il est chanceux. Les circonstances font en sorte que il y a encore le champ libre pour poursuivre.
Tu disais que Justin Trudeau est un battant, puis là, il nous prépare une surprise aujourd'hui en immigration avec une réduction importante du nombre d'immigrants. On passerait de 495 000 à 365 000 en 2027. C'est une façon pour lui de repousser l'échéancier puis de forcer le Bloc québécois à voter, à continuer son alliance avec les libéraux, puis ainsi là, passer à travers la période des fêtes?
Je pense que oui. Il est en pleine possession de comment ça fonctionne au Parlement à Ottawa. Il connaît ses joueurs aussi, les joueurs dans son équipe, mais les joueurs des équipes adverses. Il sait très bien comment sortir les bonnes lignes au bon moment pour pouvoir se garder lui-même au pouvoir, pour pouvoir aussi s'assurer là, qu'il n'y a pas de vote de non-confiance au Parlement. Donc oui, ça fait partie de son premier coup son premier coup d'échec. Quoi qu'il y en a, on n'est pas en premier, on n'est pas au premier tour.
On part pas à game.
Non, parce que là, il y a une coupe de pions, voire de cheval sur les chiquets qui sont partis avec Pablo Rodriguez, Marie-Claude Bibeau. Il a perdu une coupe de... Il n'est pas en situation favorable dans le jeu.
Oui, exactement. Puis il faut se rappeler aussi que de toute façon, son leadership va être remis en question ou va être un chef du Parti libéral du Canada, c'est voté par les membres, c'est pas voté par les députés. Donc, de toute façon, il faut qu'il y ait l'appui des membres.
C'est vrai.
Et pour qu'ils perdent l'appui des membres, il faut que les membres se tournent vers quelqu'un d'autre. Et en ce moment, ce quelqu'un d'autre-là, c'est pas manifesté et il nous vient pas à l'esprit naturellement. Donc, je pense que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Justin Trudeau, il est là pour se battre jusqu'aux prochaines élections.
C'est quoi les chances que, justement, pour les prochaines élections, on se rende à la date prévue, que ce soit pas un gouvernement qui tombe avant à coup de petites annonces ou de grosses annonces, là, dans le cas d'aujourd'hui en immigration? Y a-t-il des bonnes chances qu'on se rende à date prévue d'élection normale?
Il y a des bonnes chances, mais je vous dirais là, que tous ceux qui ont anticipé là, des élections d'ici la fin 2024, c'était les probabilités étaient quand même plutôt minces. La seule porte plus grande ouverte là, avant l'automne prochain, là où c'est supposé avoir lieu les élections en octobre prochain, ce serait plutôt en novembre prochain, ce serait au dépôt du budget au mois de mars, au printemps. Donc ça, franchement, va falloir regarder attentivement les joutes politiques au mois de janvier, février et mars au dépôt du budget, parce que là, il pourrait avoir des votes de non-confiance de la part soit du Bloc québécois, soit du Parti conservateur, les néo-démocrates, et on pourrait se lancer dans une campagne électorale au printemps. Ça, la porte est plus grande ouverte.
Jacinthe, hier, LCN filmait la porte, là. Puis on disait, là, c'est écrit partout, ça passe ou ça casse pour Trudeau. Finalement, ça a passé. Moi, je veux que tu te mettes dans la peau de quelqu'un dans les autres partis. Conservateurs, NPD, que ce soit aussi le Bloc. Eux, qu'est-ce qu'ils soient... Ils regardaient probablement la même image. Là. On filmait à pas, mais t'es là. Mais tu sais, ils étaient proches. Qu'est-ce qu'eux autres souhaitent? Qu'est-ce qui est mieux pour eux? Est-ce qu'ils souhaitaient que Justin Trudeau quitte ou c'est mieux d'avoir pour la suite des choses Justin Trudeau à son poste?
C'est sûr que c'est plus facile. C'est plus facile pour tout le monde que Justin Trudeau reste, bien sûr, parce qu'on sait sur quoi l'attaquer. Il incarne l'ensemble des décisions politiques qui ont été prises depuis 2015. Donc, on peut l'attaquer sur ce mandat-ci, mais on peut l'attaquer sur ses réalisations ou ses non-réalisations des derniers mandats, des trois derniers mandats. Donc, c'est beaucoup plus facile l'attaquer comme ça. Il incarne tous les échecs du Parti libéral du Canada, alors que si on avait un nouveau joueur, là, la joute se compliquerait parce que la personne pourrait se présenter en incarnant une trajectoire différente puis un avenir différent. Donc là, ça fait l'affaire de tout le monde des autres partis politiques. C'est probablement aussi ce qui inquiète le plus les députés actuels qui ont tenté de se soulever contre leur chef en disant « mais on va être donc bien facile à attaquer ». On est donc bien facile à attaquer. On n'est pas populaire auprès des électeurs. Et en plus de ça, les autres partis nous connaissent comme le fond de leur poche, alors ils savent exactement où frapper. Ils étaient dans les processus décisionnels, les processus législatifs, l'ensemble des projets de loi qui ont été déposés, tout le monde les connaît sur le bout de leurs doigts. Ils savent qui s'est opposé à quoi, à quel moment, quel parti a voté contre. Donc, c'est beaucoup plus facile d'attaquer. Mais en même temps, Justin Trudeau a les coups des franches avec une équipe de ministres qu'il supporte, personne qui se pointe à l'horizon. Et on va se ramasser avec une campagne électorale qui va être facile aussi à suivre pour les électeurs, parce que ça aussi, ça va moins brouiller les cartes. Si on avait un nouveau chef au Parti libéral du Canada, ça viendrait brouiller les cartes, parce que justement, là, on pourrait avoir une espèce de renouveau qui se dessine à l'horizon, puis ça deviendrait moins clair pour les électeurs si on refait confiance au Parti libéral. Là, on sait dans quoi on s'engage si on revote Parti libéral, si on vote Bloc aussi. C'est un appui au Parti libéral en grande majorité, avec le discours qui est différent. Et puis, voilà.
Pendant que Justin Trudeau reste, Valérie Plante quitte à Montréal. Elle décide de partir. Elle dit qu'elle n'aura pas l'énergie pour faire un nouveau 4 ans. C'est quoi le bilan que t'en fais? Parce que, tu sais, d'ici de Québec, puis là, je sais que toi, tu as affaire à Montréal pour justement le travail. D'ici à Québec, on se dit que Montréal, il n'y a plus d'allure, Montréal. T'sais, Montréal, c'est les cyclistes. L'économie, c'est pas développé. T'es, hier, je mentionnais des statistiques accablantes sur le nombre de constructions, etc. C'est un bilan très négatif, les 8 ans de Valérie Plante à Montréal?
Bien, tous ceux qui l'adorent puis tous ceux qui supportent ses politiques disent que, voyons donc, elle a quand même réalisé des belles choses. C'est loin d'être la pire mairesse que Montréal a eue. Il y a beaucoup de critiques aussi à son endroit. Ce qu'on regarde, c'est qu'il y a eu un sondage Somme là, qui a été réalisé là, dans la première et deuxième semaine du mois d'octobre cette année. Là. Donc, c'est un sondage tout récent qui révèle que plus de la moitié des Montréalais ne souhaitent pas la revoir aux prochaines élections. Donc, d'avoir plus de la moitié de tes citoyens qui s'opposent à te revoir, te lancer dans une nouvelle campagne électorale, c'est quand même très révélateur d'une insatisfaction. Et ce qu'on regardait aussi auprès des répondants, c'est que plus les répondants ont un revenu élevé, plus ils s'opposent à Valérie Plante. Okay. Donc, plus ils sont jeunes, plus le revenu des ménages descend, plus il y a un appui à Valérie Plante. Et les gens qui se situent dans la tranche supérieure salariale, les gens d'affaires, les professionnels qui gagnent en haut de 100 000, eux, s'opposent davantage. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on a eu une mairesse qui incarnait énormément des valeurs idéologiques moins branchées sur l'économie.
Okay. Okay.
Je cherchais de dire plus, mais là,
ouais.
moins branchées sur les enjeux de développement économique.
C'était plus une mairesse au niveau social.
Ouais.
T'sais, c'était c'est une vrai. Mairesse au niveau du bien commun puis de la grande famille, tout le monde ensemble. Je me trompe-tu?
Ben oui, mais faut se rappeler aussi qu'avant de devenir mairesse en 2017, Valérie Plante était conseillère d'arrondissement en 2013. De 2013 à 2017, elle avait une vision d'arrondissement. Elle travaillait dans un arrondissement de Montréal. Et elle est arrivée, moi, je regarde son bilan, là, puis c'est ce que ça me donne comme impression, c'est qu'on a une vision de mairesse d'arrondissement qui est arrivée mairesse de Montréal au complet en 2017. Et elle a gardé cette vision d'arrondissement. Alors, combattre les îlots de chaleur, mettre des parcs éponges, mettre des pistes cyclables, donc améliorer une certaine qualité de vie dans les quartiers. Ça, c'est une vision très mairesse d'arrondissement. C'est très bien, ça n'en prend des gens comme ça. Mais si on s'en va à la tête d'une grande ville, d'une métropole économique, ils l'appellent souvent le poumon économique du Québec, même si ça fait grincer des dents toutes les régions, disent sans nous, on extrait les matières premières, on les transforme puis on les achemine, mais bon, il reste que Montréal, c'est une métropole économique, et là, on est arrivé avec une mairesse qui est arrivée avec sa vision très vision d'arrondissement, et c'est là où ça nous fait réfléchir comme électeurs, parce qu'on l'a vu à Montréal, on l'a vu à Gatineau, pour ceux qui ont suivi la politique municipale, on le voit, il y en a qui le perçoivent du moins ici à Québec, quand on est élu, quand on a un élu qui a des passions puis une idéologie très forte sur, par exemple, là, moi, je veux des parcs pour les enfants. C'est super important pour moi d'avoir les quartiers familiaux avec des parcs pour les enfants. On veut revitaliser les parcs. Il y a des parcs vieillissants. Je veux que les enfants puissent bouger dans des beaux parcs. C'est fantastique. Je peux vendre ce rêve-là de dire il va y avoir plus de parcs, il va y avoir des terrains de baseball partout puis des terrains de soccer. Ça n'en prend des gens comme ça. Mais si c'est ta seule vision, si c'est ta seule priorité, puis tu te présentes à la mairie, bien, il faut qu'on sache comme électeur qu'il va y avoir un accent très fort là-dessus et peut-être que là-dessus.
Ben, tu me permets de faire un résumé de tes paroles. Ça, c'est la job d'un conseiller municipal.
Oui.
Les parcs,
ouais.
La vie active,
ouais.
La vie en communauté. Le maire, ce que je comprends, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui fait de la business.
Ben oui.
Développe
ben
ta
oui.
ville.
Ben oui. Ben en tout cas, du moins, le monde dans lequel on vit est constitué de ça. On est en compétition pour le tourisme, pour accueillir des projets d'investissement, pour la revitalisation de notre ville, pour l'évolution, le développement économique. On est en compétition avec toutes les grandes villes du monde, puis toutes les grandes villes du monde qu'on adore aller visiter ou qu'on regarde sur des cartes postales ou qu'on rêve d'aller visiter, bien, ils se sont développés avec ça en tête, avec des gens en support pour s'assurer que les citoyens vivent bien, puis qu'il y a des pistes cyclables, puis qu'il y a des parcs, bien sûr. Mais ça, c'est un travail de soutien aux maires. C'est vraiment un travail de soutien aux maires. Et quand on a quelqu'un qui est passionné par ça, mais qui se dit « moi, je m'en vais maire », on n'a pas tout à fait la bonne personne dans le bon rôle. Ouais.
Jacinthe-Ève, en terminant, le rôle de maire ou mairesse de Montréal, c'est un autre monstre total. C'est une autre game, ça se compare pas. Au Québec, en tout cas, c'est pas comparable. Penses-tu maintenant que Valérie Plante a annoncé qu'elle sera pas là pour un troisième mandat, qu'on va avoir beaucoup... C'est une position populaire? Il va-tu avoir bien des noms, des gens connus qui vont lever la main puis dire « Moi, j'embarque dans la course. Moi, je voudrais être maire de Montréal. »
Ben, Colin, ça va être à surveiller. Début novembre, surveillez bien. La ville de Montréal va déposer son budget. Et là, ça va faire peur à n'importe qui est économique. Ça fera pas peur aux gens qui en veulent plus de pistes cyclables, puis qui en veulent une ligne rose, puis une ligne bleue, puis ah ouais, on ajoutera une ligne mauve s'il faut. Ça fera pas peur, mais quelqu'un à vocation économique, une personne qui est très axée sur l'importance d'avoir les finances équilibrées, d'avoir un développement économique sain pour sa ville, parce qu'il sait que tout part de là. On le sait, l'argent mène le monde. Pour tous ceux qui m'écoutent et qui disent « voyons donc, l'argent mène le monde. Ouais. » On vit dans ces règles du jeu-là. Donc, ça sert à rien de fermer les yeux puis dire « bien, il y a d'autres choses dans la vie. » Oui, il y a d'autres choses dans la vie, mais en ce moment, les règles du jeu, c'est la planète Terre, ça s'appelle « L'argent mène le monde ». C'est comme ça, OK? Donc, tout part de là. Et ça veut dire que comme individu, comme ville, comme organisation, comme à titre de n'importe...
T'as pas le choix.
On n'a pas le choix. Il faut avoir des finances saines, il faut avoir des finances solides, il faut avoir des revenus diversifiés, il faut avoir un contrôle de nos dépenses, que ce soit au niveau individuel, organisationnel, dans le communautaire, et dans la gestion des fonds public, c'est la même chose. Et puis, ce dépôt du budget-là, au début novembre, on s'attend à quelque chose de pas nécessairement très reluisant, peut-être même quelque chose de catastrophique. Et là, ça pourrait rebuter des candidatures intéressantes sur le plan économique. Ça éteindra pas les candidatures déjà qui grouillonnent là, en ce moment. On dit que déjà dans le parti de Valérie Plante, ça grouillonne déjà qui va le remplacer. Ça fera pas peur à ceux qui veulent continuer les pistes cyclables puis les beaux parcs éponges puis les... Oui, c'est ça. Les fameuses bordures là, qu'on voit.
De chaleur.
Ouais, c'est ça.
Jacinthe Avarel, notre chroniqueuse politique. Je résume pas mal les messages qui rentrent parce que je partage la même opinion. Là. Motadine que c'est le fun quand tu passes nous voir jaser politique. Toujours un plaisir. On s'en parle bientôt?
Oui, à bientôt. Ouais, merci.
Merci pour ça. Boulevard 102.